The sixth member of the Discovery crew was not concerned about the problems of hibernation, for he was the latest result in machine intelligence, the HAL-9000 computer. Good afternoon, Hal. How's everything going?
Good afternoon, Mr. Aymer. Everything is going extremely well.
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Where's the gun?
Una R2.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una R2.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Le négatif originel était gardé précieusement dans un coffre, dans l'état où les spectateurs de 68 avaient découvert ce film, ce poème métaphysique sur les origines et le destin de l'humanité. 2001, l'Odyssée de l'espace, 50 ans plus tard. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Good morning Christine, bienvenue à toutes et à toutes.
La texture et les couleurs de l'argentique, la splendeur du 70 mm, autre format, autre époque, pour une œuvre signée Stanley Kubrick, une œuvre qui restera la matrice du film de science-fiction et bien au-delà. 1968-2018, un voyage dans le temps proposé par le cinéaste anglais Christopher Nolan qui a supervisé la restauration de 2001. Nous allons vous raconter cette histoire ce matin. Bonjour Laurent Vachaud.
Bonjour Christine.
Grand
bonjour
spécialiste
Laurent.
De Kubrick, il y a tant à dire sur conception, tournage, sortie, restauration de ce film qui a littéralement révolutionné le cinéma. Très peu de copies 70 mm dans le monde, une seule à Paris, à l'Arlequin, et dès mercredi prochain, une sortie 4K numérique. Mais ça, c'est une autre histoire. Et nous, en 2018, nous découvrons quoi? Eh bien, Jurassic World, Fallen Kingdom, c'est notre destin. Et à côté, un beau message signé Panahi, ou le dernier film des deux frères Tabiani, entre autres sorties de cette nouvelle semaine de cinéma. Et pour ouvrir ce grand chapitre 2001, la voix très rare du maître Stanley Kubrick himself à la première de son film.
Scientists know now that there are about 100 billion stars in our galaxy and about 100 billion galaxies in the visible universe. Point is that there are so many stars in the universe that the likelihood of life evolving around them, even if it were possibilities of one in a million, there would be hundreds of millions of worlds in the universe.
La probabilité que la vie existe au-delà dans notre galaxie. 2001, l'Odyssée de l'espace, pari fou, film dingue, réalisé sans tout ce que peut offrir la technologie actuelle, mais avec le génie visionnaire de Stanley Kubrick, la confiance absolue de sa démarche, comme dirait Nolan, pas un seul choix accessoire, tout dans ce film est là pour une raison. Et ce film, Laurent Vachaud, est placé à peu près aux deux tiers de la chronologie de son œuvre, après Fol Amour et avant Orange Mécanique. Alors quel point d'ancrage avec ce film?
Alors, vous savez, la carrière de Kubrick, on peut la décomposer en plusieurs parties. Il y a d'abord les deux premiers films qui sont quasi amateurs. Hein. C'est impossible de se dire, en voyant Killer's Kiss et Fear and Desire, qu'on a affaire à un type qui va devenir un des plus grands metteurs en scène. Après, vous avez des très bons films qui sont plutôt encore classiques, hein, comme The Killing, L'Ultime Razzia, Les Sentiers de la Gloire.
Puis toujours des films de genre, déjà. Hein.
Ouais, ouais, oui, toujours des films de genre. Puis Lolita, par la suite. Et c'est à partir de Docteur Folamour que là, il y a une prise d'altitude énorme, même par rapport aux autres films, hein, parce que Docteur Folamour ne ressemble à rien. Et avec 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est encore plus radical, puisque là, ça révolutionne non seulement la science-fiction, mais même carrément la façon de raconter une histoire, parce que il y a des tas de techniques qui ont été reprises après, mais on se rend pas compte ce que ça devait être pour les gens en 1968 qui allaient voir un film de science-fiction qui était vendu comme une épopée de l'exploration spatiale, de se retrouver pendant 10-15 minutes à voir des singes, et de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vous voyez?
Il parle, Kubrick, et il dit qu'il le prépare depuis 65, donc depuis 3 ans, inspiré d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke, La Sentinelle, d'ailleurs, lequel C. Clarke a écrit le scénario avec Kubrick. On va parler en deux mots, parce que c'est incroyable, l'histoire des repérages du film.
Alors les repérages, c'est surtout pour les scènes africaines.
Hein, ouais, au début avec les singes.
Au début avec les singes, parce qu'au début, il pensait vraiment envoyer une seconde équipe, parce que lui ne voyageait pratiquement pas. Ouais. en Afrique. Alors, il avait commandé à des assistants réalisateurs. Il y en a un, paraît-il, c'était Yves Boisset, qui était à l'époque un assistant star en Europe, hein, puisqu'il faisait les repérages des James Bond. Et il a soi-disant rencontré Kubrick, qui lui avait demandé d'aller photographier des paysages africains. Donc, il était revenu avec une valise, paraît-il, pleine de photos. Et il en a plus jamais entendu parler, quoi. Ouais. Donc, aucune photo n'a été retenue, puisque finalement, il a décidé de tourner tout en studio avec des photographies projetées derrière les acteurs qui jouaient les singes. Hein. Et c'est en fait un photographe français qui s'appelle Pierre Boula, oui, qui était photographe de Life Magazine, qui est parti avec un assistant qui s'appelait Andrew Birkin, hein, qui était le frère de Jan Birkin, qui avait 19 ans. Et ils sont allés photographier des paysages en Namibie. Et c'est donc les paysages qu'on voit au début. Il faut bien se dire que ce sont des photos.
Le tournage, on saute beaucoup d'étapes. Bon, le tournage, 7 mois plus 2 ans de post-production des spécialistes d'effets spéciaux, dont deux issus de l'industrie spatiale, HAL 9000. Est-ce qu'on peut dire maintenant tout de suite la signification de HAL 9000? Parce que beaucoup ne le savent pas. Pourquoi il s'appelle HAL?
Alors, il s'appelle HAL parce que c'est en gros les lettres qui précèdent à chaque fois IBM, hein, voilà, qui était quand même la grande firme d'informatique de l'époque. Il n'y avait pas d'Apple. Hein. Donc, si vous prenez HAL, hein, ouais, après, les lettres qui viennent, normalement, c'est IBM. Donc.
35 décorateurs, une salle de contrôle, des corps cylindriques et rotatifs de 30 tonnes, des experts en exploration spatiale, en intelligence extraterrestre, et même des paléontologues, donc, pour cette scène d'introduction. C'est Paul Newman qui devait incarner le rôle principal.
Bah, pour un film de cette ampleur, hein, et de ce prix, au départ, bien sûr, il pensait mettre des stars dans les deux rôles principaux, et Katharina Kubrick, qui est donc la fille adoptive, hein, de Stanley, racontait qu'un soir, en rentrant de l'école, elle était tombée sur Paul Newman dans son salon à New York, en train de discuter avec son père, parce qu'il lui avait proposé le rôle de l'astronaute Bowman. Et Paul Newman avait refusé parce que le rôle n'était pas assez fouillé pour lui.
C'est pas un film d'acteur, il faut
le dire. C'est pas un film d'acteur. Je pense que 2001 avec une star, ça aurait été vraiment dommage. Parce qu'on se serait dit, mais qu'est-ce que Paul Newman fait là-dedans?
Pas d'extraterrestre montré, pourtant il a hésité là-dessus. Hein.
Ah bah ils ont fait des études, ils ont fait des sculptures, il y a même eu...
Derrière hésiter, il y a beaucoup de choses, ouais, pardon.
Il y a le mime qui s'appelle Daniel Richter, qui joue le singe, hein, au début, le fameux singe qui envoie l'os en l'air. Ouais. En fait, il avait revêtu un costume avec des boules pour faire une sorte de forme qui se mouvait dans l'espace, comme ça dans la chambre à la fin. Il voulait montrer des formes invisibles un peu, donc ils avaient fait toute une étude, et c'était le même mime qui avait repris, qui devait jouer l'extraterrestre.
Ouais. Ce fameux négatif 70 millimètres si bien conservé, une copie analogique dans son format d'origine, donc restaurée sous le contrôle de Christopher Nolan, plus le son 6 pistes. Cette copie était à Cannes, la voici à Paris, à l'Arlequin, la seule salle parisienne équipée d'un projecteur 70 millimètres à demeure. Visite dans cette cabine avec Désiré, l'une des projectionnistes, suivie des premières réactions de jeunes spectateurs. Désiré, là on rentre dans la salle de projection, bah, vous allez nous expliquer un peu comment ça marche.
Oui, bonjour. Donc ici on a notre projecteur, notre beau projecteur, c'est un DP75 qui est toujours installé là. Il peut faire le 70 et le 35 n'importe quand. Il faut juste changer quelques, par exemple l'objectif, la fenêtre de projection, le palpeur. Mais sinon il est fonctionnel toute l'année.
C'est pas le palpeur.
Le palpeur, alors c'est, voilà, ici on a la...
Vous touchez presque la pellicule, là.
Non, mais ça c'est pas grave.
C'est pas grave de la toucher pendant qu'elle tourne.
Non, parce que justement, le palpeur, c'est lui qui donne la vitesse du plateau, pour savoir à quelle vitesse il va défiler. Donc ici, on voit bien que le film, il défile, la pellicule, elle défile ici. Et vous voyez, le palpeur, là, il se déplace, et il va faire tourner plus vite le plateau, ou moins vite.
Ce qui est magique, c'est de voir la pellicule défiler au-dessus, là.
Oui, des fois, généralement, on met une petite lumière là-bas, comme ça, on peut mieux voir les photogrammes. Ouais. C'est assez cool, quoi, enfin, je trouve.
C'est magnifique comme pellicule, ça, non?
Oui, en plus, la qualité, là, évidemment, bien meilleure.
Et quand vous la collez sur la colleuse, vous prenez des gants? Vous mettez des gants?
Non, franchement, c'est pas si fragile que ça, en fait. Non, on peut manipuler avec la main... Quand on met le scotch, on peut nettoyer un peu, soit avec du coton-tige, avec un peu d'alcool pour enlever la colle qu'il en reste, mais non, c'est pas du tout fragile. Enfin, on fait attention, mais...
Pour mieux s'entendre, on va bouger un peu.
Et donc ici, c'est un peu notre bureau, mais pour commander les séances en numérique.
Oui, là, vous avez un écran de contrôle du cinéma, là.
Voilà, et puis on peut lancer les films des trois salles ici.
Désiré, c'est très spécial de quand même projeter 2001 dans cette version-là. Est-ce que vous avez l'impression, au-delà d'un film, de projeter un spectacle ?
Ah oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, je trouve ça génial. Déjà, c'est assez incroyable qu'on ait cette chance de le voir en 70 mm. J'avais invité un ami l'autre jour et il était complètement bouche bée. Il y a plusieurs spectateurs qui connaissent pas du tout et qui demandent à voir justement la cabine de projection pour faire une visite, en fait, voir la pellicule. Même la pellicule, ils voient pas vraiment ce que c'est. En fait, quand ils disent « Ah, ça, c'est le film, c'est 10 bobines qui sont ensemble, patati patata ». Donc oui, moi je passe ma journée à danser au son de Strauss. oui.
Est-ce que c'est pas ensuite décevant de repasser au système actuel après avoir projeté 2001 ?
Oui, c'est sûr que cette expérience de 2001, je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est quelque chose que je vais garder. Je pense qu'il y a peu de gens, même en tant que projectionniste, en tant que spectateur aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ne le verront pas en 70 mm. Et donc oui, après, mais bon, on va dire que là, on est un peu dans un rêve et on sera de retour à la réalité bientôt, après la fin de la projection.
Moi, c'était la première fois que je voyais. Et j'avais fait exprès, je voulais attendre de le voir en salle. Et je regrette pas, parce que c'est tellement immersif, le travail sur le son est tellement incroyable que... Et la copie est restaurée de manière...
C'est pas une copie restaurée.
Ah, c'est pas la copie restaurée de Nolan ?
Il n'y a pas de copie restaurée. C'est pas une copie restaurée, c'est une copie tirée d'après original.
D'accord.
Donc ça veut dire que tu vois le travail de laboratoire de 1968, plus ou moins. Il y a un interpositif qui a été gardé, c'est le tirage de l'interpositif que tu vois là, en salle.
Il le voit comme les spectateurs de 68.
Encore un petit peu mieux, peut-être pour des raisons optiques, peut-être pour des raisons de salle, peut-être pour des tas de raisons, mais à peu près dans les mêmes conditions, ouais.
C'est incroyable.
C'est juste une belle copie.
À quel point c'est intemporel, à quel point ça n'a pas vieilli.
Alors que tu avais vu les autres Kubrick,
oui,
mais tu attendais de voir celui-là en salle.
Oui, parce qu'il est considéré comme son chef-d'œuvre, et puis c'est au-delà du simple film, c'est une expérience de cinéma. C'est opératique, c'est un opéra, c'est plus qu'un simple film. Donc, voilà.
Vous avez tout compris ?
Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ? Faut se laisser porter. Après, en sortie de salle comme ça, c'est dur de tout de suite... donner une hypothèse ou une analyse.
De toute façon, il n'y a pas de vérité absolue. C'est Kubrick qui répond à pourquoi la vie, quoi.
C'est ça.
Laurent Vachelot, un garçon de 22 ans qui dit 2001 n'a pas vieilli, c'est fort quand même, non ?
C'est fort, mais c'est vrai surtout. Ouais. C'est-à-dire, quand vous voyez le film, à part, bon, vraiment peut-être des coupes de cheveux ou des même les scaphandres, moi je sais pas, je crois qu'on peut voir des films actuels où les scaphandres sont pas plus vieillots, hein. Non, moi je trouve que le film n'a pas du tout vieilli, même la représentation des singes, hein, que vous voyez aujourd'hui, bien sûr, il les ferait en CGI, hein, enfin, comme vous voyez les films de la planète des singes, mais là, il y a plein de gens, même à l'époque, qui croyaient que c'était des vrais singes.
Bien, un côté romantique dans cette pellicule aussi, un côté.
Oui, mais ça, les gens aujourd'hui, les jeunes perdent complètement la dimension qu'on projette des images animées. Ils sont tellement habitués à voir les DVD, les Blu-ray, qu'une copie 70 mm de 2001, je ne sais pas si ça représente grand-chose pour eux comme ça. Ils ne visualisent pas forcément ce que c'est.
Il s'appelle Christopher Nolan, il est cinéaste. Il a notamment signé Memento, Inception, Interstellar et plus récemment Dunkerque. Donc c'est lui qui a parrainé cette non-restauration, comme il dit. Il rend hommage à son maître. Nous écoutons Christopher Nolan au micro d'Elvis Mitchell. Traduit et interprété par Harold Manning.
Hal, you have an enormous responsibility on this mission. In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. Does this ever cause you any lack of confidence?
Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.
We're calling this the unrestored version.
Nous appelons la version non restaurée. Parce que nous sommes revenus aux éléments d'origine. Et donc à une image photochimique avec des copies photochimiques tirées en 70 mm. Et pour le son, nous sommes revenus au master Cipiste, qui était à l'origine exploité sur les copies 70 mm. Et on l'a transféré dans un format numérique qui puisse être joué dans les salles de cinéma d'aujourd'hui. Et ce mixage, il est véritablement stupéfiant. On a tous reçu un choc en l'écoutant. On y trouve des pics acoustiques. Je dis souvent que j'aime que le son soit fort dans les films. Mais là, il y a des pics acoustiques dans ce mixage de 2001 qui sont plus audacieux que ce que je me permettrais. On a alors passé ce son dans deux ou trois vraies salles pour l'entendre. Et je dois dire que quand vous l'entendez dans son contexte, quand vous l'écoutez avec l'image 70 mm, dans cette version 6 pistes, vous les comprenez, ces pics sonores. Vous comprenez dans le contexte pourquoi il les a voulu. Ça vous secoue juste au bon moment, ça dilate l'univers du film. Ça vous fait traverser la Stargate, la porte des étoiles, avec ce son extraordinaire, cette utilisation extraordinaire de la musique. Ça ne ressemble à rien de ce qui avait déjà été fait. Et ce qui est vraiment amusant en travaillant sur ce film, pour le ressortir, c'est se rendre compte à quel point c'est une œuvre radicale. Encore aujourd'hui, 50 ans après sa réalisation, la simplicité absolue de la narration. Donc oui, c'est un film insaisissable et austère, qui table sur l'expérience du spectateur, qui table sur l'idée d'un cinéma pur, d'une image et d'un son pur, qui vous emporte dans un voyage narratif. Mais la simplicité avec laquelle il accomplit cela, l'assurance avec laquelle il accomplit cela, cette autorité que le film possède, ça n'a absolument pas vieilli. 2001, c'est une expérience de spectateur purement cinématographique. Et c'est pour ça que pour beaucoup de cinéastes, comme moi-même, c'est le film qui s'érige comme un sommet de ce que le cinéma peut offrir. C'est un film qui vous démontre que le cinéma peut tout se permettre. Il ne s'agit pas tant de briser des règles, il s'agit de refuser d'admettre que des règles existent. Et d'offrir une expérience unique et fascinante qu'on peut partager dans une salle de cinéma. Il faut vraiment remonter à Griffith, il me semble, pour trouver une telle réinvention de toute pièce du cinéma. Quelqu'un qui dit, voilà ce que le cinéma peut produire aujourd'hui. Et ce que j'ai découvert en revenant sur ce film, et je l'ai revu des douzaines de fois ces derniers mois en m'occupant de cette réédition, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il a proposé une nouvelle idée du cinéma. Il a brisé toutes les règles, il a réinventé les règles. Mais il n'a pas établi de nouvelles règles qui soient forcément utiles aux réalisateurs qui venaient après.
Welcome to Voice Print Identification. Would you please state in the following order your destination, your nationality, and your full name?
Moon, American, Floyd.
La raison pour laquelle je pense que 2001 est le chef-d'œuvre de Kubrick, c'est que pour moi, c'est le film dans lequel la maîtrise méticuleuse de son art, sa dévotion totale à la discipline, au détail, à la technique cinématographique. 2001, c'est le film où tout ceci est mis au centre, où cela fait partie vraiment du spectacle. Ces effets spéciaux inimaginables, ils ne sont pas juste là pour épater la galerie. Ils sont au cœur de l'émotion, de ce qu'on nous raconte. Et pour moi, quand je vois cette station orbitale qui tournoie dans l'espace sur la musique de Strauss, j'ai une réaction très, très émotive devant cette image. Et dans d'autres mains, ce serait une image technique. Ce ne serait qu'un effet spécial, mais ça, ce n'est pas un effet spécial ici. C'est toute une iconographie qui dégage une émotion, et c'est ça le cœur du film. En vous parlant, je me rends compte que pour imiter ça, il faudrait s'adjoindre toute une technologie extraordinairement complexe et laborieuse que seul Kubrick était capable de mettre en œuvre. Autrement dit, personne n'a imité cela parce que même la moitié de ce niveau d'innovation technique et de perfection ne suffirait pas à faire fonctionner un projet. C'est le contraire d'aujourd'hui où tout est fabriqué sur des ordinateurs, avec des logiciels. Et par définition, ces effets peuvent être immédiatement être imités par le public. Le public sent bien qu'il suffit d'acheter le même logiciel. Une fois que le public a découvert une innovation technique ou artistique, dans un film en particulier, il n'a plus qu'à acheter le logiciel pour l'utiliser lui-même. 2001 a été tourné avec des maquettes, avec des motion control d'avant l'ère des ordinateurs, en fait. Des choses extraordinairement compliquées qu'il a fallu des années pour concevoir. Des décors fantastiquement novateurs dans la façon dont ils ont été conçus pour bouger, pour tourner. Rien dans 2001 n'a été fait à la légère. Tout a été fait comme il faut. Tout a été fait dans cette poursuite implacable de la perfection que portait Kubrick. Et dans ce sens, je crois que c'est impossible de l'imiter véritablement. Ce qu'on y trouve dans le film, c'est la matière. l'autrice de nombreuses influences, et c'est plus intéressant. Il n'y a qu'à voir La Guerre des Étoiles de George Lucas en 1977. On y trouve une influence énorme de 2001. Mais il l'a portée vers quelque chose de bien plus cinétique, plus pop. Mais la prise de vue des maquettes et le sentiment de réalité appliqué à la science-fiction, c'est quelque chose que George Lucas a clairement puisé dans 2001.
Hello. How are you, Squirt? What are you doing?
Hey, are you coming to my party tomorrow?
I'm sorry, sweetheart, but I can't.
Why not?
You know, Daddy's traveling.
Alright.
Okay, sweetheart. Now have a nice birthday tomorrow.
Alright.
Have a nice birthday party tomorrow, too, huh?
Alright. Bye-bye.
Bye-bye. Happy birthday.
Le rapport qu'entretient 2001 avec notre avenir a évolué, évidemment, avec le temps, en termes de pertinence. Quand j'ai d'abord montré le film à mes gamins, il y a, je dirais, 10 ans, une de leurs questions à l'époque, c'était « Pourquoi l'ordinateur, il parle ?» Parce que pour eux, un ordinateur, c'était un outil, pas une intelligence. C'était comme un tournevis, comme une machine à écrire. Et on ne considérait pas l'ordinateur comme une intelligence autonome. Aujourd'hui, ce portrait d'une intelligence artificielle est étrangement prémonitoire. Regardez l'application Siri et tous ces programmes intelligents qui tentent de communiquer en prenant une voix humaine. Et donc le film aujourd'hui est plus pertinent et prémonitoire dans sa description de l'intelligence artificielle que jamais, y compris au moment de sa sortie. Et ça, c'est l'incroyable simplicité du film et des outils élémentaires utilisés par Kubrick pour faire passer ses idées. Ça vieillit incroyablement bien. Il y a un lien évident avec notre avenir. Et je me souviens de moi, gamin, découvrant le film un peu plus tard quand j'avais 20 ans, des choses comme les téléconférences, ça nous semblait un peu vieillot. Est-ce qu'on va vraiment se parler par chat vidéo dans l'avenir? Et bien sûr, maintenant que FaceTime existe, ils ont même des iPads dans 2001. On les voit littéralement avec un appareil qui a clairement inspiré l'iPad. Et donc on voit beaucoup plus clairement aujourd'hui à quel point le film prédit très précisément les choses et les problèmes que nous allons rencontrer avec la technologie.
I'm sorry, Frank, I think you missed it. Queen to bishop 3, bishop takes queen, knight takes bishop, mate.
Yeah, it looks like you're right. I resign.
Thank you for a very enjoyable game.
Yeah, thank you.
Laurent Vachaud, déjà, rien que cet ordinateur qui a une voix humaine, c'était une idée extraordinaire, parce qu'à l'époque, les robots avaient des voix complètement artificielles.
Oui, et puis surtout, les robots, c'était des robots comme ceux de Planète Interdite. Vous voyez, ils étaient représentés avec des formes humanoïdes.
Oui.
Là, en fait, c'est juste une forme qui rappelle d'ailleurs celle du monolithe.
Oui,
hein, avec cet œil rouge au milieu. C'était quand même assez audacieux de se dire que chaque fois que le robot allait parler, on allait regarder ce truc qui est quand même pas très expressif.
Et pourtant, l'œil est très humain, c'est le seul truc.
Et finalement,
émouvant.
C'est le personnage le plus humain du film, c'est l'ordinateur. Et notamment la scène où il est déconnecté.
Oui.
C'est probablement, moi je trouve, avec la scène de la mort du fils de Barry Lyndon, les deux scènes les plus émotionnelles du cinéma de Kubrick.
Donc la sortie n'a pas été facile. Hein. On parle maintenant de chef-d'œuvre, mais à l'époque, il a été très, très, très critiqué, notamment par la presse américaine.
Ah bah, il y a eu le jour de la première, déjà, avec les patrons de la MGM et beaucoup de stars hollywoodiennes, ça a été vraiment une débâcle. Il y a 200 personnes qui sont parties,
oui,
dont Rock Hudson,
oui,
qui dit que c'était un scandale. Il y avait des gens surtout très âgés, hein, parmi les cadres du studio, qui n'étaient absolument pas au fait de la science-fiction. Déjà, ils n'étaient pas clients. Donc tout le monde prédisait que ça allait être une catastrophe. Donc Kubrick était extrêmement nerveux. Ça a duré à peu près 2-3 jours.
Oui.
Les premières critiques ont été épouvantables, en disant Pauline Kael, qui était quand même une des plus grandes critiques respectées, hein, du New Yorker, disait que c'était un film d'un manque d'imagination incroyable. Vous voyez, la plupart ont vraiment pas du tout été réceptif.
Mais parce que c'est en totale rupture avec ce qui se fait,
voilà,
à l'époque, ouais, hein, sur les films de science-fiction, d'extraterrestres, ça n'a rien à voir.
Non,
c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose.
À l'époque, ils avaient une grille d'analyse des films qui était,
voilà,
extrêmement classique, ouais, c'est-à-dire il fallait qu'un film donne lieu à des performances d'acteurs mémorables. Bon, là, vous voyez les deux cosmonautes, vraiment, c'est le degré zéro du jeu d'acteur.
Ouais.
Hein. On disait tout à l'heure, l'ordinateur est presque plus émouvant.
Et puis, il n'y a pas l'extraterrestre. Et l'extraterrestre, c'est quand même la figure centrale du film de science-fiction à l'époque. Parce que c'est c'est celui qui fait peur. Finalement, ce qui fait peur dans 2001, c'est l'humain. C'est pas l'extraterrestre.
Et surtout, bon, pour la plupart des critiques américains, c'était pas sérieux. C'est-à-dire, faire un film de science-fiction, c'était pas sérieux à l'époque.
Alors, il y a des scènes qu'il a coupées entre les premières projections officielles et la sortie. Il a coupé entre 17 et 19 minutes. Kubrick, quand il avait pas le temps, parce que les copies étaient déjà envoyées, il demandait aux exploitants de couper eux-mêmes ces fameux trucs avec les time codes précis. Certains l'ont pas fait, donc quelques personnes sur Terre ont vu ce 2001 avec 17 ou 19 minutes de plus.
Et il s'est passé la même chose pour Shining. Hein. Il a fait couper par les projectionnistes la dernière scène où on voyait chez les Duval à l'hôpital avec l'enfant et le directeur de l'hôtel qui venait les voir.
Laurent, on comprend pas tout dans 2001, peut-être un peu plus maintenant, quoique, est-ce que c'est important finalement? Parce que j'aime bien l'idée que des jeunes générations le voient maintenant avec justement ce regard pur, avec... pas de grille de lecture, et ça s'interprète comme on veut, même si il y a quand même une explication.
Moi, je pense que c'est pas très... Enfin, si, c'est très important de le comprendre, parce qu'on va le revoir, c'est un film qu'on revoit.
Moi, primordial.
Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est vrai que j'avais rien compris, mais c'est une expérience, c'est-à-dire, vous voyez des choses, et surtout, à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Il faut quand même réfléchir que c'est avant que l'homme pose le pied sur la Lune. Ouais. On n'avait jamais vu une photo de la Terre. C'est 1972, la première photo de la Terre, c'est 1972. Là, on est en 66 quand il tourne le film. Vous voyez, donc, c'était les gens qui voyaient ça, avaient l'impression de découvrir un truc pas possible. Aujourd'hui, avec tous les spécialistes opéra qu'on a vu, c'est moins. Mais en tout cas, pour moi, c'est un film qui donne la grille de lecture du cinéma de Kubrick. C'est-à-dire, quand vous avez vu 2001, vous pouvez les voir les autres exactement de la même manière. C'est toujours l'histoire d'une intelligence supérieure, d'un ordre supérieur qui domine un individu qui est vidé de son humanité. Que ce soit les aristocrates de Orange Mécanique qui vont s'attaquer aux jeunes drogues qui vont déshumaniser, que ce soit le narrateur qui représente la providence dans Barry Lyndon et qui a l'air de dominer le héros parce qu'il connaît déjà tout ce qui va lui arriver, que ce soit les fantômes de Shining qui manipulent Jack Nicholson, et même dans Eyes Wide Shut, c'est l'ordre supérieur du film, c'est celui auquel appartient Sidney Pollack, cette espèce de secte, et qui a l'air de dominer complètement Tom Cruise.
Sachant que ce qui domine tout, c'est Kubrick.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est nos autoportraits.
Et c'est toujours des films sur une déshumanisation. Oui. Comment un ordre supérieur déshumanise un individu.
Quand on revoit le film maintenant, il y a un truc très très étonnant. Quand vous revoyez 2001, vous voyez plein de films modernes avec des emprunts absolument partout. Donc ils sont très nombreux à avoir été inspirés par...
La première influence, moi, que je vois, c'est cette utilisation de la musique classique. C'est-à-dire, c'est à partir de 2001 que beaucoup de metteurs en scène ont décidé d'utiliser beaucoup de morceaux classiques connus, qui généralement étaient ce qu'on appelle les theme tracks. C'est avec ça qu'on sonorise temporairement le film avant que le compositeur vienne pour donner sa musique, et c'est pour lui donner un peu le ton des morceaux qu'on veut. On donne des pièces classiques ou des musiques d'autres films, mais là, à partir de 2001, il y en a plein. Je veux dire, vous voyez par exemple un film comme Apocalypse Now, c'est un film complètement kubrickien, c'est-à-dire vous avez une mission, c'est-à-dire un type qui doit remonter un fleuve, c'est comme le cosmonaute, il va rencontrer à la fin son double, vous voyez Brando à la fin dans son temple qui sort de l'obscurité, c'est presque le Star Child qu'on voit à la fin, vous voyez le personnage de Robert Duvall qui s'excite avec la musique classique comme Alex dans Orange Mécanique, la chevauchée des Valkyries avec les engins volants, c'est exactement un truc qui pourrait sortir du cinéma de Kubrick.
Et j'ai l'impression que c'est la première fois que les portes intérieures d'un vaisseau spatial se referment avec autant de délicatesse, dans une sorte de bruit très très soft.
Oui,
on a toujours vu ça après.
Oui, mais... parce qu'aujourd'hui, les films de science-fiction et les Star Wars et tous ces films de super-héros, c'est des films bruyants. Vous allez voir 2001, il y a 60, je ne sais pas combien de pistes sonores pour faire écouter du silence. C'est quand même paradoxal. C'est vrai.
Et d'ailleurs, à l'Arlequin, le soir où j'y étais, je n'ai jamais vu, d'abord, si on dit que Kubrick est Dieu, c'était absolument la grand-messe. Il n'y avait pas un seul bruit dans la salle, mais un truc, une espèce de fusion vers...
Il y a quand même une scène qui dure à peu près, pas loin de 10 minutes, où c'est un cosmonaute dans l'espace et on n'entend qu'une respiration. Et c'est la respiration de Kubrick.
Mais comment il a fait pour tourner tous ces choses dans le sens inverse, etc., la gravité, comment il s'est donc il s'est associé à ces chercheurs, à ces scientifiques.
Ils ont fait un studio en forme de centrifugeuse. Vous voyez, en fait c'est comme une grande roue qui tournait. Ils étaient à l'intérieur et ils faisaient tourner la grande roue comme ça pour montrer qu'un coup le gars était en haut. Ils étaient attachés avec des ceintures, la tête en bas. Vous voyez, c'était la trouvaille géniale, c'était de tourner dans une centrifugeuse. Brian De Palma a fait un peu la même chose après avec Mission to Mars. Ils sont reconstruits construit un peu un studio comme ça, parce que ça évite de tourner en apesanteur réel. Par exemple, Ron Howard, quand il a fait Apollo 13, il a tourné dans un cylindre où les acteurs étaient vraiment en apesanteur réel. Ouais. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut des harnais pour attacher les gens, sinon ils s'en vont. Là, la centrifugeuse, ça vous permet vraiment de mettre la tête en bas, sans avoir d'apesanteur simulé. Quoi.
Vous avez parlé de Coppola, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Fincher, il y a Nolan, il y a même Haneke. On dit que par rapport au débat, au questionnement moral aussi, c'est très proche.
Sur Funny Games.
Par exemple, sur Funny Games.
Oui, ça c'est Kubrick en général, c'est pas 2001 en particulier.
Et Noé aussi, avec Enter the Void, avec le délire final qu'il a fait à partir de Polaroid, Kubrick.
Non, il y a eu peut-être des Polaroids, mais il y a beaucoup de techniques différentes. Hein. C'était un technicien jeune d'ailleurs à l'époque qui s'appelle Douglas Trumbull qui a fait la fin de 2001, en tout cas le fameux trip visuel, qui est en fait filmé avec en tout cas toutes les couleurs qu'on voit tournoyer comme ça. C'est une machine qui s'appelle le slit scan et on met une fente, enfin c'est assez complexe, mais on met un cache avec une fente devant un décor qui défile, et c'est en général un décor psychédélique comme ça avec des et vous prenez une photo comme une technique d'animation en faisant avancer la caméra sur un travelling comme ça et ça produit cette espèce de stroboscope comme ça, un petit peu cette impression quand on est d'être dans un tunnel comme ça où on fonce avec des couleurs qui vous arrivent dans la figure. Et pour les influences, moi je rajouterais Cimino parce que vous avez dans Voyage au bout de l'enfer, vous avez cette extraordinaire ellipse, c'est-à-dire on voit les types qui sont en train de jouer au piano et puis tout d'un coup il y a cette ellipse où on les retrouve en plein Vietnam, vous voyez, extrêmement audacieuse. La scène au piano avant est quasiment une citation des Sentiers de la Gloire, c'est-à-dire de la fin des Sentiers de la Gloire. Donc Cimino, après, il a repris le beau Danube bleu dans La Porte du Paradis. Hein. C'est un type qui, sans avoir les mêmes innovations, a été très très marqué par Kubrick, comme Coppola, comme Spielberg, comme De Palma, mais aucun n'a eu vraiment la même audace. C'est-à-dire, c'est quand on dit Star Wars, vous voyez, ça n'a rien à voir avec 2001. Simplement, c'est des space opéra. Ils se sont dit, on va utiliser l'espace pour un décor d'un grand film à gros budget. Alors qu'avant, l'espace, c'était des séries B. Hein. Donc là, 2001 a permis à des super productions de faire de la science-fiction. Mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est une œuvre assez unique. Nolan disait tout à l'heure un truc assez juste. Il disait qu'il n'y a pas d'héritier de Kubrick.
Non.
Vous avez des gens qui font des citations.
Il est trop singulier pour être reproductible, a dit George Lucas.
Et c'est très austère. Vous voyez, Hitchcock, des gens comme De Palma ont pu reprendre des techniques, la façon de filmer, de découper une scène. Vous reprenez des techniques de Kubrick, c'est extrêmement austère.
C'est-à-dire, ce qu'on peut un peu lui reprocher, c'est d'avoir asséché le marché de chaque film de genre qu'il a abordé.
Un petit peu, ouais. Hein.
Merci Laurent Vachaud, vous restez bien sûr avec nous. On se retrouve après The Blaze Heaven pour parler des sorties.
Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Hal? Hal! Hal!
My mind is going. I can feel it. Good afternoon, gentlemen.
Daisy, fine, give me your land, Sir Lucy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage.
Thank you.
Que nous propose le cinéma en 2018? Eh ben, Jurassic World, Fallen Kingdom. Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction. Ouf. Une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. De toute façon, Laurent, quoi qu'on dise, la critique est presque inutile. Les gens iront le voir. Quatrième épisode, juste après Jurassic World tout court. Et toujours Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Réalisé donc par un héritier de Spielberg, Juan Antonio Bayona. Jamais autant de dinosaures, jamais autant de combats de cascades. Rendu technique, peut-être 20 sur 20, plus volcan en fusion extrême. Un scénario basique, une énigme génétique grossière. Des personnages pas vraiment subtils, euphémismes, mais notamment le jeune geek. Et surtout une surenchère super fatigante de rebondissement en rebondissement pour concurrencer sans doute les jeux vidéo trépidants. Pas de répit pour les braves, donc nous. Et du coup, pas d'angoisse, ni de peur, du danger. C'est des dinosaures quand même, excepté cette scène dans une chambre la nuit où l'un d'entre eux apparaît en ombre chinoise devant les yeux effarés de cette jeune héroïne. Enfin, une vraie scène. Le reste est du pur divertissement, aussi vite avalé qu'un cornet de pop-corn. Volontaire, deuxième film de l'actrice Hélène Filière. Laure a 23 ans, elle se cherche. C'est dans la Marine nationale qu'elle va trouver un cadre, une structure, des repères, solide et persévérante. Elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie. C'est avec Lambert Wilson et Diane Rouxel.
Bien pris, Christine. Oui, j'ai appris en allant voir ce film que dans, chez les militaires, on disait bien pris, pour dire qu'on s'était bien compris. Alors, bien pris, Christine. Voilà, je suis content. C'est effectivement d'ailleurs à peu près la seule chose que j'ai apprise et pu apprécier dans ce film qui est bizarrement, même très très bizarrement, ce qu'on appelle un film fanamili, c'est-à-dire fasciné par la chose militaire. Il y a des drapeaux partout français, il y a des contre-plongées sur des profils militaires. Enfin, c'est très très étonnant, alors que le sujet, en soi, il est intéressant. C'est exactement le sujet que Thomas Caillé avait si bien traité dans Les Combattants, c'est-à-dire une jeune femme fascinée par un univers qui n'est absolument pas le sien. Là, c'est en l'occurrence Diane Rouxel qui s'en sort très très bien, il faut le dire. En face d'elle, elle a un Lambert Wilson qui cabotine dans un rôle qui s'appelle le moine, c'est son surnom, c'est le commandant du camp, enfin celui qui est chargé des études.
C'est Xavier Beau.
Oui, c'est ça. Et donc, bon, bref, on sait pas trop ce qu'on fait là. Il ne se passe pas grand-chose dans ce camp, et surtout tout est tellement attendu et tout est tellement effectivement fasciné par ce milieu que ça en devient presque risible.
En revanche, on va s'arrêter quand même plus longtemps sur trois visages de Jafar Panahi. Une célèbre actrice iranienne reçoit une vidéo troublante d'une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice. Elle demande alors à son ami, justement Panahi, de l'aider à comprendre s'il s'agit d'une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille dans les montagnes reculées. Prix du scénario très mérité. Oui. À Cannes, un scénario beaucoup plus complexe que le précédent Taxi Téhéran, avec plus de cinéma aussi, Laurent, et surtout, autour de cette manipulation, une belle étude de caractère et un état aussi de la société iranienne.
Ah ben oui, effectivement, c'est avec une sorte de road movie où les rencontres se succèdent, on pense inévitablement à Kiarostami,
mais enfin, l'assistant.
Oui, et c'est pas un gros défaut. Non. En l'occurrence, vaut mieux penser à tout Kiarostami qu'au dernier Faradi, par exemple, si on parle de cinéma iranien. Et très franchement, ce que réussit Panahi, c'est en contre-plongée, si je puis dire, un portrait étonnant de cette société iranienne beaucoup plus complexe, beaucoup plus diverse qu'on ne le pense ici en Occident, toujours, ça c'est clair, mais enfin où il y a du patriarcat, de la censure, des femmes qui sont effectivement pas forcément très très bien traitées, et tout ça, Panahi le montre avec énormément, là aussi, de cinéma. Il y a quelques très beaux plans dont on se souvient longtemps après la fin de la projection du film.
The Cake Maker de Ophir Raoul Grazer. Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié israélien avec enfant qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt dans un accident de voiture, eh bien Thomas se rend à Jérusalem à la recherche des réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas va se plonger dans la vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit café. Histoire d'amour triangulaire où l'un des trois, pour l'essentiel du film, est un fantôme, mais si présent dans le cœur de l'un et de l'autre. À cela s'ajoute un contexte, celui d'Israël, le frère juif pratiquant, qui voit ce jeune allemand non non-juif, se rapprocher de sa sœur, l'amour, le deuil de l'amour, les interdits, les tabous, traiter plutôt délicatement ses sobres, ses tenues et ses tenues. Laurent.
Oui, c'est un feel-good movie, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que le contrat est assez bien rempli, on part d'un gros, un assez gros mélo et puis on va vers une sorte voilà, de portrait délicat. Le plus intéressant, à mon sens, de ce film qui a remporté un immense succès en Israël, et oui. C'est là peut-être le plus intéressant parce qu'il remporte un immense succès, ce qui pour un feel-good movie est relativement attendu, mais avec un discours, vous le disiez, très très agressif, enfin très critique sur la société israélienne dans son versant religieux. Oui. Parce qu'il y a des, on ne parlera pas, mais il y a un versant comme ça de dénonciation de l'ultra-religion en Israël qui fait que eh ben, ce feel-good movie va un peu plus loin que le programme attendu.
Football infini de Cornelius Porumbuyu, quel incroyable film que ce film. Cela démarre petit à côté d'un terrain de foot désaffecté en hiver. Laurent Yu raconte à son cousin Porumbuyu la blessure dont il a été victime au foot petit, sa jambe non opérée qu'il a traitée longtemps et à partir de ce micro-événement, il lui expose la théorie qu'il a échafaudée pour modifier le terrain et le jeu de foot, ces règles mal faites qui ont selon lui cassé sa jambe et sa vocation. Il propose notamment de transformer le terrain rectangulaire en forme octogonale et carrément de supprimer le hors-jeu. En fait, c'est lui qui s'est mis hors-jeu, attribuant tous ses malheurs ni à lui ni aux autres, mais à ses règles mal faites. Et l'on découvre le raisonnement dément de Laurent Yu, métaphore de sa vie et aussi d'un pays et ses aberrations administratives à travers notamment une scène incroyable où une vieille dame veut récupérer un bout de terrain aidé pour cela par un prof d'échecs. À première vue, c'est aride. Le film est démantèlement à partir d'un seul homme. Pour Umbuyu, voyage dans un raisonnement philosophique passionnant, un peu comme le ferait un bon cinéaste iranien, en fait, Football Infini, c'est un peu l'autre film iranien de la semaine.
C'est vrai, c'est comme si la Roumanie avait un nouveau pays, ça s'appelle l'absurdie.
Hein. Voilà.
C'est incroyable, c'est-à-dire ça navigue en permanence entre Kafka, Gogol et l'ancien Ceausescu, avec cette scène extraordinaire où ils vont même essayer de mettre en pratique sur un terrain les délires de gestionnaires du football. Donc ça, non, c'est vraiment tout à fait réjouissant.
Una question privata, dernier film des deux frères Taviani depuis la mort en avril de Vittorio. Été 43 Piémont, Milton aime Fulvia qui joue avec son amour. Elle aime surtout la profondeur de sa pensée et les lettres qu'il lui écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans la résistance et se bat aux côtés d'autres partisans. Au détour d'une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi, et il va se lancer à sa recherche. Quel thème !
Et oui, mais on est beaucoup chez Pavese, chez Bassani, c'est-à-dire sur la grande littérature italienne, celle qui a su toujours mêler la grande histoire, en l'occurrence là on est en 1943 chez les partisans italiens, et la petite histoire, mais qui peut être la belle histoire passionnelle en tous les cas entre ces trois-là. Et ça, les Taviani savent le mélanger et le dire, le raconter d'une façon très très intelligente, avec des paysages dans le brouillard qui sont ce qu'on a vu de plus beau au cinéma depuis plusieurs mois. Très franchement, il faut aller voir ce nouveau et dernier, hélas, film des frères Taviani. On espère que le survivant continuera à faire du cinéma.
On a très peu de temps pour parler de Eddie Lamarr, From Extase to Wifi.
Oui, exactement, Eddie Lamarr, incroyable, 6 mariages, pas entièrement, mais pas beaucoup de talent. Et effectivement, elle a inventé ça. Et il y a non seulement ce documentaire formidable qui sort sur les écrans, et chez Séguier Éditions, une autobiographie d'Eddie Lamarr qu'il faut lire.
Samedi, dimanche, lundi, Bergman en ballet au Théâtre des Champs-Élysées. Allez-y, c'est exceptionnel. Le festival de Cabourg, Laurent, du film romantique.
Oui, j'en cherche les dates, mais je les ai sous les yeux. Suis-je bête? Du 13 au 17 juin, ouais, bien évidemment, la semaine prochaine. Ce sont les 32e journées romantiques avec des films en compétition. Et puis les avant-premières, les films de Valéria Golino, Pavel Pavlikovski, Bertrand Modico, Pierre Salvadori, entre autres.
Un petit cadeau pour notre ami Laurent Vachaud.
Mais oui, le cadeau d'un confrère que nous recevons régulièrement ici, monsieur Gaël Golen de Première, qui vient de sortir, attention, le titre est long, 3 minutes pour comprendre 50 grands courants, acteurs et films du cinéma français, les Frères Lumière, Jean Renoir, L'Âge d'Or, etc. C'est effectivement une très belle introduction au cinéma. Je suis sûr que même vous, Laurent Vachaud, vous y apprendrez quelque chose.
Merci,
allez, j'en prends le pari.
Merci Laurent Vachaud. 2001, l'Odyssée de l'espace en copie, 70 mm à l'Arlequin, rue de Rennes, à Paris, jusqu'à mardi prochain. Le 12 mai, dernière séance à 20h45 au Kinépolis de l'Homme, du 15 juin au 8 juillet, au Mercure d'Elbeuf du 11 au 31 juillet, l'Apollo Rochefort à partir du 15 août et à partir de la semaine prochaine en 4K numérique. Générique de fin avec pour la première fois une projectionniste désirée à l'Arlequin, et comme elle est vénézuélienne, eh bien, ça sera en espagnol. Au revoir.
Esta emisión fue inspirada por todas las películas de cine. Hay directores y hay actores. También hay escritores y proyeccionistas. Portocantes escribió la música de los créditos. Las piezas fueron escogidas por Muriel Pérez. Martín Messonnier se ocupó de la preparación. Es una emisión realizada por Claire Destancan. Fue producida y presentada por Christine Masson y Laurent Delmas. Y yo, Desiré, proyeccionista del Arlequín, estaba. Et moi, Désiré, projectionniste à l'Arlequin, j'y étais.